Voici à présent l'actualité francophone sur France Inter. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette actualité francophone, la Suisse qui renforce ses mesures contre le terrorisme. Plusieurs mesures inspirées de la France, de l'Allemagne et de l'Italie pour tenter d'empêcher les départs de candidats au djihad vers la Syrie et l'Irak. On parle aussi de terrorisme en France avec un sondage pour le moins glaçant. La torture serait moins choquante s'il s'agit d'empêcher un acte terroriste. La déception des profs en Belgique, le niveau exigé en français pour les élèves de 14 ans était tellement bas cette année qu'un enfant de 10 ans aurait pu obtenir son certificat. Enfin, la ville de Québec, privée d'équipe professionnelle de hockey, le sport national, la Ligue d'Amérique du Nord a préféré accorder sa franchise à Las Vegas. Le gouvernement suisse a proposé cette semaine une série de mesures pour lutter contre le terrorisme et pour empêcher des djihadistes potentiels de rejoindre Daesh en Syrie et en Irak. Les mesures sont en réalité une copie d'une réglementation qui existe déjà en France, en Allemagne et en Italie. Une annonce qui laisse la classe politique plutôt sceptique, Laurent Caspary.
Oui, jugez plutôt, on trouve dans l'arsenal proposé cette semaine par le Conseil fédéral des mesures plutôt gentillettes, comme obliger un suspect de se présenter régulièrement au poste de police pour l'empêcher de partir. Faire le djihad, pas sûr que cela soit véritablement efficace. Une autre mesure dont vous avez largement parlé en France, c'est la question de la nationalité. Ici, pas question de déchéance, mais de retrait du passeport, dans l'espoir de rendre la mobilité difficile, voire impossible. Et puis, il y a parallèlement à cela la volonté de renforcer les surveillances discrètes des personnes suspectes. Là, les exemples français sont entrés dans le débat, comme on l'a entendu de la bouche de Carlo Sommaruga, élu socialiste au Parlement fédéral.
On stigmatise tout d'un coup des personnes qui se retrouvent sous fiche S française, qui ont montré qu'il y avait des personnes qui n'avaient simplement strictement rien à voir, simplement parce qu'ils avaient pris un bus une fois sur lequel se trouvait quelqu'un qui lui était sous fiche S et qui n'avait jamais communiqué avec ces gens, ou simplement se retrouvait au travail avec quelqu'un qui était plutôt radicalisé, mais qui lui n'avait aucune radicalisation. Et on a vu aussi que ces fiches S ont concerné des personnes de la mouvance écologique en France, qui ont été assignés à résidence ensuite aux manifestations, pour les manifestations de la COP21. C'est extrêmement délicat, et surtout de mettre dans un système européen comme le SIS des informations de nature qui ne sont pas complètement étayées, pour moi c'est aussi mettre hors jeu des individus et c'est une atteinte à leurs droits fondamentaux.
Le débat va donc se poursuivre et on notera que la Suisse a livré son lot de djihadistes. Selon les autorités fédérales, depuis le début de la crise, environ 70 personnes sont parties de Suisse pour rejoindre la Syrie, l'Irak ou encore l'Afghanistan. 21 de ces personnes auraient trouvé la mort.
La lutte contre le terrorisme fait mauvais ménage avec la défense des droits de l'homme, y compris dans les esprits. C'est ce que prouve un sondage réalisé pour l'ACAT, une association chrétienne pour l'abolition de la torture en France. Une majorité de Français serait prête à approuver la torture pour obtenir des informations, Annette Ardisson.
Scénario déjà vu dans une série américaine. On sait qu'il y a une bombe, mais on ne sait pas précisément à quel endroit ou comment la désamorcer. Dans cette hypothèse, effectivement, 54% des sondés trouvent justifié que les policiers qui interrogent le suspect lui envoient des décharges électriques. En 2000, avant les attentats du 11 septembre aux États-Unis, la même question avait été posée par Amnesty International. Et la proportion de gens qui n'étaient pas choqués n'était que de 34%.
Ça veut dire que la gégène de la guerre d'Algérie n'est plus tabou.
Effectivement. Alors pour les plus jeunes, je précise que gégène, c'est un terme d'argot militaire qui désigne la dynamo électrique manuelle destinée à alimenter les téléphones de campagne. Comme chacun sait, elle n'a pas servi qu'à ça. Même employé sans périphrase, le mot « torture » ne fait plus peur. Un Français sur cinq pense qu'il pourrait la pratiquer lui-même dans des cas exceptionnels. Pour Michel Terechenko, maître de conférence en philosophie, ce n'est pas une surprise, c'est la preuve de l'affaiblissement des démocraties sous les coups du terrorisme.
On l'a vu au lendemain du 11 septembre, dans la politique menée par l'administration Bush, les centres de détention secrets, la torture, etc. Donc en fait, c'est comme un signe, si vous voulez, effectivement, cette tolérance croissante est comme le signe d'une vulnérabilité, à la fois des démocraties, des citoyens eux-mêmes, pas seulement des États, ou des politiques publiques, mais même des États eux-mêmes qui sont d'accord avec ça.
Selon l'ACAT, l'action chrétienne pour l'abolition de la torture, celle-ci est pratiquée dans un pays sur deux dans le monde.
Les amateurs de hockey de la ville de Québec sont très déçus. Cette semaine, Benoît Audet, les dirigeants de la Ligue nationale de hockey, le plus important circuit professionnel au monde, ont refusé de leur accorder une franchise. Ils ont préféré miser sur la capitale américaine du jeu, Las Vegas. Les amoureux du hockey à Québec devront encore attendre avant de revoir une équipe professionnelle.
Oui, Québec a inauguré un aréna flambant neuf l'année dernière à la fine pointe de la technologie, mais les autorités de la Ligue ont estimé que les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain rendaient l'aventure de Québec plutôt incertaine.
On a donc préféré un marché non traditionnel pour implanter une nouvelle équipe au détriment d'un marché naturel comme Québec.
Oui, la nouvelle équipe évoluera en plein désert à Las Vegas. La Ligue nationale a grandi ses cadres dans des marchés où le hockey a peu de racines, comme en Arizona ou en Floride, des États américains où il fait chaud toute l'année. La formule a bien fonctionné dans certains cas, mais il y a des équipes qui éprouvent des problèmes à attirer les foules aux États-Unis. Les amateurs de Québec comptent là-dessus. Ils espèrent maintenant qu'une équipe en difficulté soit relocalisée chez eux.
En Belgique, cette semaine, Nathalie De Vic, c'est encore un petit chat qui a fait, bien malgré lui, l'actualité.
Reconnaît le chat qui s'appelle Flocon. C'est la question qui ouvrait cette année l'examen de français pour les élèves de deuxième secondaire. Un examen commun à toutes les écoles baptisé CE1D. Des élèves âgés de plus ou moins 14 ans, confrontés à une épreuve de compréhension de la lecture qui s'est apparentée pour beaucoup à un jeu d'enfant. Une grosse blague, ont même cru certains. Je vous laisse juger. Le texte fait mention d'un chat noir avec une tache blanche. Les élèves doivent le retrouver parmi quatre photos de chat et recopier sous la bonne photo le nom de Flocon. Je vous rappelle que ces élèves ont 14 ans. Beaucoup en ont ri, plusieurs professeurs, eux par contre, ont avoué avoir pleuré en découvrant les questions, ayant l'impression d'avoir travaillé avec leur protégé durant 2 ans pour du vent. Une honte, une escroquerie intellectuelle, un nivellement par le bas. Face à ces accusations, la ministre de l'Éducation, Marie-Martine Schins, a tenté de temporiser.
Il ne faut évidemment pas regarder une seule question, celle qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais qu'il faut regarder l'ensemble de l'épreuve et pas focaliser, par exemple, en plus sur la première question qui sert souvent de lancement pour les élèves.
Ça n'a pas calmé les esprits échaudés, d'autant que l'an dernier, déjà, les sessions ont été complètement bouleversées. Il avait fallu annuler des examens pour cause de triche, les questions s'étant retrouvées la veille sur les réseaux sociaux. Cette année, rebelote, nouvelle polémique que ne comprend pas la présidente de l'Association des professeurs de français. Pour Christiane Buisseret, les gens sont tout simplement mal informés quant à la philosophie de l'épreuve qui ne vise, dit-elle, qu'à vérifier les compétences minimales consignées dans les programmes.
On ne voit pas pourquoi les gens s'affolent parce que beaucoup d'élèves réussissent. Si ce sont des éléments minimaux, mais c'est tant mieux que la plupart des élèves y satisfont.
Un minimum bien trop mini qui ne confronte pas les jeunes à la réalité. À quoi servent ces examens si tout le monde les réussit ? À quand le jeu des 7 erreurs ? Ironisent les profs indignés, comme beaucoup de parents d'ailleurs. Ils estiment que l'école prend les élèves pour des idiots, qu'elle se moque de leur travail. La polémique est loin de s'éteindre à quelques jours des vacances d'été. Il n'est pas question de remettre en cause la pertinence de l'épreuve certificative, mais son niveau, là, oui, clairement, et ce décalage stupéfiant entre les questions et la matière apprise en classe.
Et c'est la fin de ce rendez-vous francophone. Vous nous retrouvez sur lesmediafrancophones.org.